Bien le bonjour, donc une session d'information sur cette mi-journée, sur ce vendredi, avec une météo qui est toujours un peu grise, mais en tout cas des informations qui sont par contre importantes et toutes fraîches et toutes chaudes en même temps. Vous savez ce qu'on appelle une information fraîche, ça veut dire qu'elle est récente, et toute chaude, ça veut dire que elle va être importante finalement pour nous et bien évidemment pour vous qui êtes de l'autre côté du poste. Alors, de quoi s'agit-il ? Vous le savez peut-être, il y a eu un permis qui a été déposé pour avoir la possibilité de faire des recherches de ressources minières sur le territoire du pays de Haute-Sarthe, en gros entre le secteur de la Charnie, Ségri, et puis de l'autre côté Sillé, Conly, hein, voilà grosso modo, avec en plein centre la zone de Rouet et de Tény. Le journal officiel a fait paraître l'arrêté donc signé par Arnaud Montebourg, ministre du redressement productif, un arrêté qui date du 17 juin, qui accorde justement ce permis avec quelques réserves. Donc pour mieux comprendre cette décision et l'impact qu'il y aura à la fois sur les territoires et pour nous habitants de ce pays, eh bien nous avons trois témoignages que nous allons vous proposer d'écouter dans le courant de cette session d'information. Dans un premier temps, c'est Maurice Georges que nous entendrons. Maurice Georges qui nous a rendu visite ce matin, qui a été enregistré donc aussi dans nos studios, qui expliquera donc le point de vue de l'association locale, le point de vue donc des habitants du territoire. Puis ensuite, nous aurons le témoignage de Michel Bonnemaison, qui est le directeur général de Variscan Mines d'Orléans, qui a déposé cette demande de recherche. Et puis à 12h40, nous devrions avoir normalement en direct le sentiment de Françoise Dubois, députée de notre circonscription. Donc dans un premier temps, pour que vous fassiez une idée sur ce qui peut arriver sur notre territoire, je vous propose d'écouter dans un premier temps donc Maurice Georges, et dans une vingtaine de minutes, ce sera Michel Bonnemaison pour avoir le point de vue de Variscan Mines. L'actualité est très chaude, il y a un événement important donc qui s'est manifesté hier, qui fait suite à des événements dont nous parlons déjà depuis maintenant de nombreux mois. En effet, le journal officiel du 27 juin de cette année vient de publier l'accord qui a été donné par le ministre Arnaud Montebourg pour qu'il y ait donc un permis exclusif de recherche minière sur le secteur qui s'étend en gros de la Charnie jusqu'à Ségri, de Sillé vers Conly, voilà en gros. Alors on a avec nous ici Maurice Georges, c'est lui d'ailleurs qui hier nous a donné l'info sur cette publication. La décision du ministre date du 17 juin. Vous n'aviez pas eu d'écho avant, monsieur Georges?
Ouais, on a notre réseau, c'est pour ça que j'étais vigilant, effectivement, et dès hier matin, au saut du lit, j'ai consulté le JO, et c'est là où je me suis rendu compte, effectivement, que c'était passé, quoi.
Alors justement, donc l'accord a été donné, vous vous y attendiez ou pas, sur l'accord global. Est-ce que l'amputation d'une partie du territoire, enfin l'amputation donc qui a été vue dans la décision d'Arnaud Montebourg, vous convient?
Alors, cette amputation n'est pas mince, puisqu'elle comporte le site de Champy, mais ce n'est pas uniquement les 30 hectares clôturés que tout le monde connaît.
Alors, rappelons tout de même ce qu'est ce site de Champy, pour ceux qui sont écartés un petit peu de cette actu, oui.
Voilà. Ce site de Champy correspond à la concession attribuée à Total en 1988, qui va grosso modo depuis la place de l'église de Rouet, le clocher de Rouet, jusqu'à la route de Sillé-Conly, soit grosso modo 800 hectares, soit également l'ensemble de ce qui est lorgné par Variscan en termes de réserves minières.
Rappelons, Variscan, c'est la société qui a déposé la demande de permis d'exploration.
Hein. Oui, c'est vrai, que vous avez raison, moi je
vous, navigue vous, tout Vous tout êtes les... dedans 25 heures sur 24.
C'est un peu ça en ce moment, oui c'est vrai. Et Variscan, effectivement, c'est la société orléanaise qui a déposé un permis de recherche exclusif. Alors, soit dit en passant, c'est le premier permis déposé depuis plus de 30 ans en France. Et là, déjà, on avait quelques inquiétudes concernant l'éventuelle signature du ministre, parce que dans les conditions actuelles, avec la condition économique que l'on connaît, que tout le monde déplore, il y avait une opportunité éventuelle de faire quelque chose. On voyait mal le ministre ne pas signer, quoi. Ça, aujourd'hui, reconnaissons-le.
C'est quoi face à face? C'est une perspective de développement économique face à des enjeux environnementaux et de qualité de vie pour les habitants. C'était ça un peu le ministre du redressement économique. Était logique qu'il aille vers cette option plutôt développement économique.
Il y a, d'après ce qu'on sait, d'après ce que Radio Moquette, disons, il y a un petit peu de conflit entre les deux ministres, Montebourg et Delphine Bateau, qui est, je rappelle, ministre de l'écologie, hein, et de l'environnement et développement durable. Alors, ils n'ont pas tout à fait les mêmes points de vue, quoi. Et notamment sur la mine de Rouet, d'après ce qu'on a su, enfin on l'a fait savoir aussi, on l'a fait remonter par tous nos moyens, pour un peu attiser, disons, cette petite guéguerre et que Delphine Bateau l'emporte. Malheureusement, ça n'a pas été le cas pour les raisons que je viens de vous dire. Bon, néanmoins, il y a quand même des restrictions sévères dans l'octroi de ce PER.
Alors, donc, qu'est-ce qui a été accordé et qu'est-ce qui ne l'a pas été? Essayons d'être précis par rapport aux habitants de ce secteur, oui, qui attendent de savoir de quoi ils retournent.
Donc, le PER, permis exclusif de recherche minière, a été sollicité par Variscan, comme on vient de le dire. Société spécialement constituée pour les besoins de la cause, en 2011, je crois, décembre 2011, a déposé donc cette demande de permis en juillet 2011, décembre 2010, excusez-moi, c'est en 2010, enfin bon, peu importe. Juillet 2011, dépose une demande de permis de recherche minière sur un peu plus de 200 km², allant, comme vous l'avez dit tout à l'heure, à peu près scié, conlis, aigri, jusqu'à au-delà des carrières de Voutré, quoi. 17 communes sont concernées, 15 de la Sarthe, 2 de la Mayenne. Et dans ce périmètre est intégré l'ancien site de Champy, arrêté depuis 1997, aux mains actuellement de la société Total, qui a repris, comme chacun sait, la société Elf, qui elle était à l'origine l'exploitant.
Alors rappelons, ce site, c'était de l'exploitation donc d'or avec utilisation de matières donc du genre cyanure, etc. Voilà. Hein, c'est ça que les mots que les gens entendent dans notre secteur. Oui.
Absolument. Oui. Donc ça a été exploité pendant quelques années, pas très longtemps, hein, 3-4 ans, pour extraire grosso modo 2 tonnes d'or et 8-9 tonnes d'argent.
Donc ça, la charnière des années 90.
Hein. Oui, c'est ça. Voilà. C'est ça. Jusqu'en 92, je crois. Et comme vous venez de le dire, il faut, pour extraire ça et sortir chacun des minerais, il faut des produits chimiques, des réactions chimiques. Hein, on fait appel à Lavoisier, hein, et ses connaissances. Donc il y a eu effectivement utilisation de cyanure, d'arsenic, d'autres métaux lourds pour extraire l'or et l'argent, entre autres. Et ça, c'est pas neutre sur l'environnement, sur la nature locale, quoi. Et donc aujourd'hui, nous avons encore des restes de ça, des restes qui sont clos, qui sont censés être contrôlés. Et vous rappelez un peu l'épisode de février où on a mis en évidence qu'il y avait quand même des carences, des lacunes en matière de contrôle de ces rejets, quoi. Ce qui a entraîné de la part du préfet une grosse colère, se traduisant par une mise en demeure de la société Total.
Alors, quels ont été les effets de cette mise en demeure?
Alors, cette mise en demeure, ben, écoutez, on ne peut que se satisfaire de la suite que Total donne, puisque il y a des travaux qui sont entrepris, qui sont actuellement en cours, d'ailleurs, sur le site, qui constituent à recreuser des fossés, rediriger, contrôler les ruissellements. Ruissellements qui, je le rappelle, sont surtout composés d'eau acide, très acide, hein, phénomène des pluies acides, on en est vraiment là. Il y a cette partie-là, et une autre partie qu'on soupçonne, qui va faire l'objet d'une étude beaucoup plus poussée avec excavation, carottage assez profond dans un ancien bassin que Rouen Environnement a toujours soupçonné contenir des éléments incontrôlés, disons, et polluants. Donc là, et dès la semaine prochaine, ça je peux vous le dire en avant-première, je viens d'apprendre la nouvelle, hein, il y a une société qui va venir, une société internationalement reconnue, qui va venir faire ces carottages. Alors, vous allez peut-être dire que j'encense total, non, mais il faut quand même reconnaître qu'ils ont répondu présent. Quoi.
Ils n'avaient pas trop le choix non plus.
Ils n'avaient pas le choix, non, bien sûr. bien sûr que la mise en demeure du préfet, ça a fait l'objet d'une enquête de gendarmerie, et ça n'a pas forcément bien plu dans les hautes sphères de chez Total, je présume.
Alors, concrètement, là, donc, ça va démarrer quand ?
Ah, quoi ? La recherche de Variscan.
Cette recherche de Variscan, oui. Alors, parce qu'apparemment, il y a des ambiguïtés.
Cette recherche de Variscan continue à se comporter un peu comme dans les républiques bananières, quoi. Et en disant, voilà, moi j'ai le PER, j'arrive avec ma pelle, ma pioche. Non, monsieur Variscan. Non, on va être vigilant, monsieur Variscan. Et on va surtout faire respecter ce que le ministre a mis dans son annexe, c'est-à-dire la constitution au préalable de tout travaux d'une constitution d'une commission de surveillance.
Mais attendez, c'est une plaisanterie, cette commission de surveillance. Comment se réunit, j'ai cru voir qu'elle se réunissait une fois par an.
Ah non, mais elle se réunit au moins une fois par an.
Ah, il y a donc moyen d'imposer plus.
Non, cette commission de suivi, c'est un cadre légal, mais très large, dans lequel les participants vont établir un règlement intérieur. Donc, avec les protagonistes. Donc, si vous voulez, là, je pense que Rouen Environnement va être au devant de la scène et certainement un des éléments moteurs de l'affaire, quoi.
Donc, vous souhaitez toujours maintenir la vigilance sur
plus que jamais.
Tout ce qui va se faire. Ça démarre quand, en fait ?
Ça démarre quand ? Ça, demandez à Variscan, mais Variscan ne pourra pas...
Qu'est-ce que disent les textes ?
Les textes disent que le préfet doit constituer cette commission. Donc, dès que le préfet engage la constitution avec les membres constituants, dans laquelle il va y avoir des gens de l'administration, de la DREAL, de la préfecture, des élus locaux, probablement des maires ou conseillers locaux, et des gens comme nous, donc d'associations de défense de l'environnement et peut-être d'autres professionnels. On a besoin de tous les avis et bien sûr les pétitionnaires.
C'est-à-dire qu'on est sur une échéance de plusieurs mois.
Oui, bien sûr qu'on est sur une échéance de plusieurs mois.
Alors qu'est-ce qu'on verra après ? Il y aura des hélicoptères qui feront des mesures, il y aura des carottages, ça se fera n'importe où. Les propriétaires, éventuellement, si jamais il y avait des carottages, auront le choix de dire oui, non. Ça va se passer comment tout ça ?
Bon, je vais vous répondre sous réserve quand même du cadre légal, parce que je n'ai pas encore tous les éléments en main concernant ça. Par contre, en ce qui concerne le survol des hélicoptères, c'est une première, ça n'a jamais été fait, paraît-il, au moins pour ce genre de recherche. Et là, on n'est pas prêt de se laisser faire, parce que on ne sait pas du tout la répercussion que peut avoir sur les humains, ces survols avec de l'électromagnétisme.
Voilà, c'est ça la technique. Oui.
Incontrôlé.
C'est pas l'hélicoptère en lui-même.
C'est pas l'hélicoptère. Mais non. Encore que l'hélicoptère lui-même peut quand même poser des problèmes, non pas sur l'homme, mais sur l'ensemble des animaux. Et allez voir si les éleveurs de poulets de louer vont être satisfaits de voir un hélicoptère survoler à moins de 30 mètres de haut au-dessus de leur bâtiment. Ça risque quand même de faire des dégâts. Mais tout ça, pour l'instant, Variscan la balayer de revers de main, ça on peut pas l'accepter. On peut pas l'accepter, si vous voulez. Il va falloir qu'on trouve un compromis vis-à-vis de cette investigation. Quoi.
Et du carottage, il va y en avoir ?
Alors du carottage, vous avez posé la question tout à l'heure à juste titre. Qu'est-ce que le propriétaire du terrain peut faire, ben il est en droit de refuser l'accès de son terrain. Ça, c'est sûr. Hein. Alors après, bon, il peut y avoir une déclaration d'utilité publique, il peut y avoir, mais tout ça, ça va demander du délai. Et je pense quand même, sans, je veux pas le souffler les bons conseils à nos pétitionnaires, variscans, mais je pense quand même qu'ils vont essayer de s'affranchir de ce genre de choses avant de pénétrer dans le jardin d'un habitant local, quoi.
Alors, quel va être le rôle maintenant de l'association qui est très liée finalement aussi avec les maires localement, qui eux sont assez sensibles, je crois, à cette question?
Oui, même si on peut, je veux dire, déplorer un peu la réserve, parce qu'ils ne savent pas trop ce qui va se passer. Mais c'est à nous justement de faire un peu le trait d'union et de mettre en avant les risques, les limites à ne pas dépasser, quoi. Et pour ce faire, bah, je peux vous dire en avant-première, même si tout n'est encore pas complètement bordé, vous voyez, on a besoin de faire de la communication, on a besoin d'expliquer, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas ce qui va se passer. Hein. Et donc on va probablement tenir un stand lors du comice agricole de Ciel-Guillaume pour justement apporter toutes ces prévisions et indiquer aux habitants et aux locaux leurs droits et leurs devoirs, certes, mais leurs droits vis-à-vis de ce genre d'opération, quoi.
Alors il faut quand même rassurer les habitants de ce secteur. L'exploitation n'est pas sûre et dans tous les cas, elle n'est pas pour tout de suite.
Non,
si
non,
jamais
non,
il y en avait une.
Non. La première phase donc est une phase de 5 ans. Hein. Le permis est valable pour 5 ans. Durant ces 5 ans, eh bien, le pétitionnaire va chercher s'il y a de quoi remplir sa besace et d'or et d'argent, au sens large du terme. Et puis, dans un deuxième temps, il va falloir qu'il fasse une demande d'exploitation. Pour l'instant, on en est à l'exploration. J'ai oublié de dire que chaque trou, chaque carottage que Variscan va être amené à faire fera l'objet d'un cahier des charges précis et d'une étude d'impact à partir du moment où on descend à 100 mètres de profondeur, mais c'est l'objectif des...
Globalement, est-ce qu'il va y avoir une nouvelle étude d'impact avant que ça commence?
Ça va être du temps aussi, ça va être important. Encore une fois, quand Variscan dit qu'il va commencer les travaux cet été, je vois vraiment pas comment il va faire. Ou alors, à se foutre royalement de la loi.
C'est écrit quelque part dans
les
textes?
Non, c'est pas écrit quelque part. Qu'est-ce qui est écrit?
Cette histoire qui démarrerait les choses l'été?
Non, mais ça a été dit sur les ondes hier soir.
D'accord.
Donc, j'espère que c'est une mauvaise traduction des paroles de Variscan. Mais j'ai quand même
quelques doutes.
Quelques doutes, oui.
Alors donc, une mobilisation de vigilance qui va continuer.
Absolument, plus que jamais. Plus que jamais, monsieur. Plus que jamais.
Et il y en a donc pour pas mal de temps pour que les choses démarrent et ensuite veiller à ce qui va se faire au fur et à mesure. Alors, bien rappeler aux auditeurs que toute exploitation donc, n'est pas pour tout de suite. Il y avait quelque chose qui tournait quand même comme incertitude au tout début. C'était, qu'est-ce qu'ils cherchent?
Alors, qu'est-ce qu'ils cherchent? Vous savez,
qu'est-ce qu'ils pensent trouver? Parce qu'ils ont quand même mis une somme énorme pour réaliser ces études. Donc, on met pas tant d'argent pour des études si on n'est pas sûr de trouver quelque chose.
Oui, effectivement. Alors, on cherche... le marché des métaux est aujourd'hui... Enfin, a été, parce qu'il est un petit peu moins, a été florissant ces derniers mois, dernières années, en ce qui concerne le cuivre, le zinc, l'or, des métaux rares, paraît-il. Mais ce n'est pas indiqué dans le PER hein, qu'il y a des recherches de métaux rares. Pas sur notre zone, tout du moins. Ce qui est indiqué, c'est or, argent et métaux connexes, hein, donc tout ce qui est attaché et qui fait le minerai du chapeau de fer de Rouet. Alors, voilà ce qui est un petit peu dans le champ de vision de Variscan. Vous dites qu'il y a des sommes énormes qui sont en jeu. Oui, c'est des sommes énormes, mais il faut relativiser. Quand on parle de mines, on parle toujours avec plusieurs zéros derrière un.
Sur des grandes échelles.
Oui, tout à fait. Ce qui nous inquiète aussi, c'est la solidité financière de Platt Search, le bailleur de fonds
australien,
australien de Variscan. Bon, alors je vais quand même vous donner une petite boutade, une petite...
Ne nous privons pas, surtout qu'on arrive au terme de notre échange, oui.
Bon, j'imagine que vous vous doutez bien que je fouille sur Internet en permanence.
Ça, c'est marrant, j'en étais presque persuadé, oui.
Et j'ai donc consulté le rapport annuel de Platt Search, le bailleur de fonds australien de Variscan. Et en page 5 ou 6 du rapport annuel 2012, je vois la photo d'une église. Je vous rappelle que Platt Search est australien. Oui. Une église qui avait plutôt une image européenne. Puis en fouillant, je me dis, mais cette église-là, je la connais. Et effectivement, c'était l'église de Ciel-Guillaume. Alors, étonnant, amusant, surprenant, je ne sais pas comment il faut dire.
En tout cas, ça veut dire qu'ils ne sont pas loin de suivre ce que fait de très près Variscan. Donc,
absolument,
de toute façon, hein.
Absolument. Voilà. N'oublions pas que Variscan est leur...
on est dans une logique multinationale. Là.
Oui, est leur correspondant européen, minier, et qui doit gérer le lien qu'il y a avec Eramet, un autre minier européen.
Très bien, alors Maurice Georges, nous allons en rester là pour l'instant. Il y aura de toute façon d'autres informations sur ce dossier encore dans les mois qui viennent. Je rappelle juste que nous vous recevions parce que est paru hier au Journal officiel de la République française le texte qui autorise sous la signature du ministre du redressement productif à Arnaud Montebourg, qui autorise donc qui donne ce permis exclusif de recherche minière à la société Variscan avec une restriction qui concerne quand même le secteur de Champy. Ça, c'est un élément important. Un rappel, vous serez présent donc sur le site du comice de Sillé, donc on aura l'occasion de vous rencontrer. Vite fait, votre site et le contact.
Alors, www machin truc, Rouet Environnement, le contact, vous pouvez l'avoir directement par le site ou alors à la mairie de Rouet en Champagne.
Maurice Georges, merci. Alors, ce matin, nous mettons l'accent principalement sur notre antenne sur la décision qui a été prise par le ministre Arnaud Montebourg concernant le site de Ténille sur lequel il y avait une demande de permis exclusif de recherche de mines. Hier, au journal officiel donc du 27 juin, que vous pouvez retrouver tout simplement en allant sur le site du journal officiel, vous avez le texte intégral de l'arrêté accordant un permis exclusif de recherche de mines de cuivre, zinc, plomb, or, argent et substances connexes à la société Variscan Mines dans les départements de la Sarthe et de la Mayenne. Nous recevions il y a quelques instants Maurice Georges pour Rouet Environnement qui venait nous expliquer son point de vue, son sentiment après cette décision du ministre donc datant du 17 juin. Nous avons actuellement avec nous en ligne Michel Bonnemaison. Bonjour Michel Bonnemaison.
Oui, bonjour monsieur.
Alors vous êtes directeur général de la société Variscan Mines d'Orléans. Vous avez Avez-vous aussi appris donc cette décision du ministre? Quel a été votre sentiment à cette décision?
Mais bien sûr, nous sommes très satisfaits parce qu'elle va, je dirais, bien au-delà du simple projet de Ténille. Hein. C'est très important pour nous sur ce secteur-là. Mais comme vous le savez certainement, c'est le premier titre d'exploration minière qui a été accordé depuis plus d'une vingtaine d'années, peut-être même une trentaine. Donc c'est pour nous l'occasion de redéployer ce genre d'activité, mais sur des bases tout à fait nouvelles, parce que ce qui se faisait il y a 30 ans n'est en rien ce que l'on peut faire aujourd'hui quant aux technologies qui sont mises en œuvre et aux objectifs finaux.
Alors concrètement, votre société est spécialisée dans l'exploration et pas dans l'exploitation. On peut rappeler aussi que vous me relèverez l'expression si elle est maladroite, vous êtes aussi une filiale d'une société australienne, c'est bien cela?
Tout à fait, d'exploration également. Oui.
Voilà, donc l'exploration aujourd'hui, ça veut dire quoi en matière de technologie, en matière de respect de l'environnement et des habitants sur un territoire?
Mais je dirais, pour commencer, c'est de commencer par ça. C'est-à-dire que nous, notre stratégie, ce qui sera mis en œuvre sur la zone de Ténille, c'est de faire un bilan factuel de l'état environnemental. Alors, en ce qui concerne une activité minière, qui potentiellement, on l'a vu dans le passé, pouvait présenter des risques de contamination par des métaux, par des oacides, par tout ce qu'on veut, il faut être capable d'appréhender quel est l'état du sol. Donc on va démarrer par une étude environnementale qui va consister à prélever les sols en surface et à peu près un mètre de profondeur pour voir dans quel état ils se trouvent aujourd'hui. Et alors avant d'entreprendre quoi que ce soit, on va déjà faire un peu ce bilan-là.
Ça se fait à quelle échelle? C'est-à-dire, c'est quelques prélèvements de-ci, de-là, il y a une forte concentration?
C'est pas, enfin, forte concentration. Oui, on peut considérer cela, puisque l'échelle, ce sera un prélèvement tous les 200 mètres.
Ah bah oui, c'est important, oui.
C'est-à-dire qu'il y aura pratiquement 10 000 échantillons qui vont être collectés sur le secteur de Tény, à peu près.
Sur un mètre de profondeur?
Non, c'est-à-dire, on prélève une motte de terre juste, je dirais, sous les racines des plantes, pour voir la nature du sol tout à fait en surface, et puis on prélève environ un mètre de profondeur pour voir ce qui se passe sous l'horizon des labours, puisque l'horizon des labours peut disperser énormément certains problèmes. Mais avec le temps, plus vous labourez, plus vous pouvez diluer, je dirais, quelque part, d'éventuelles présences de métaux dans le sol en profondeur. Donc en comparant juste sous les semelles et un mètre de profondeur, on aura un bon état du sol. Avec cet état du sol, on va s'intéresser tout de suite dans les zones où il y a des choses qui peuvent se passer, des présences de certains métaux ou d'autres éléments. On vérifiera l'état des eaux, aussi bien en surface qu'en profondeur. Comme ça, on aura une vision complète de la situation avant d'entreprendre quoi que ce soit.
Alors, il y a aussi donc la prospection qui doit se faire par moyens hélicoptères, des systèmes d'ondes.
Tout à fait.
Ça marche comment? Quelles sont aussi les protections? Parce qu'on sait aujourd'hui que les habitants, de façon générale, sont toujours méfiants par rapport aux ondes, qu'elles soient celles des téléphones ou d'autres. Qu'est-ce qu'on a en matière de garantie sur le fait qu'il n'y a pas d'impact?
Ce sont des outils qui sont parfaitement connus, hein, et maîtrisés, même on ne peut pas considérer que ce soit des outils grand public, bien évidemment. Mais il y a pas mal de documentation sur le sujet. En fait, pour donner un critère, les ondes émises sont de plus faible amplitude, plus faible intensité que celle d'un téléphone portable, voyez. Et l'exposition à ces ondes, le temps qu'un hélicoptère vous survole à peu près 60 km à l'heure, c'est comme si un portable était allumé à côté de vous pendant une seconde. C'est l'exposition aux ondes, c'est celle-là, c'est totalement négligeable, quoi. Il n'y a pas
Vous allez donc, alors c'est à quelle échéance que ces opérations-là vont être menées, carottage, puis analyse?
Ouh là, on est loin.
On est en termes d'années, là.
Les carottages se feront lorsque des présomptions d'existence de quelque chose auront été atteintes. Alors pour cela, comme je vous le disais, on va démarrer par une vision environnementale du terrain. Donc le premier programme est un programme de collecte d'échantillons. Et vous avez vu, 10 000 échantillons, ça va prendre au moins un an à collecter ça.
D'accord, première étape, d'accord.
Première étape, donc, on analyse les sols. Juste en surface et un tout petit peu plus profond, mais on reste dans le sol. On analyse les eaux pour savoir qu'est-ce qui se passe au niveau des eaux. Alors, les densités, évidemment, seront variables en fonction du résultat de ce que l'on voit dans les sols. S'il n'y a rien dans le sol, on ne va pas trop s'inquiéter de l'état de contamination des eaux, parce qu'il n'y a pas de raison. Ensuite, une fois que l'on aura fait ça, on se lancera sur la géophysique. D'autant plus qu'il faut bien cerner les zones, les demandes, etc. Ça prend du temps, hein. C'est pas que ça se décide pas d'un claquement de doigts. Donc, dès cet été, je pense que les travaux de géochimie commenceront.
Alors, on a bien entendu, oui, parce que ça étonnait tout à l'heure le représentant de l'association d'avoir entendu sur des médias voisins que justement, dès cet été, il y aurait des actions qui seraient menées, alors que, si j'ai bien compris, une commission doit être formée, cette commission ne serait pas encore formée.
Ça, on va bien voir. Ceci dit, on n'est pas là pour jouer les délais, etc. Le plan de travail, je dirais, qui va être remis, qui est un plan, j'insiste encore, environnemental, consiste à ramasser une motte de terre pour l'analyser. C'est-à-dire, l'impact environnemental est nul, c'est zéro,
hein, ouais.
Mis à part le fait, je dirais, de marcher, mais bon, ça dérange en général pas grand monde, et c'est afin, en plus, je dirais, environnemental. Ce plan sera présenté, on a un mois pour le présenter maintenant, donc, au préfet. Donc, et ensuite, bien, on attendra l'autorisation ou les éventuelles remarques qui pourraient survenir sur les risques potentiels, je dirais, de collecter les échantillons. là, honnêtement, je vois pas quel type de risque il peut y avoir, même en cherchant bien loin.
C'est carottage, question que doit se poser tout propriétaire sur notre secteur. Mm-hmm. C'est carottage, donc vous dites en gros tous les 200 mètres.
Non, il n'y a pas de carottage. Non, j'ai dit qu'on allait prélever un échantillon de sol. C'est-à-dire qu'on va prendre une petite un transplantoire de jardinier, si vous voulez.
Ah, d'accord, ok.
Et on ramasse une botte de terre, et puis on va l'analyser.
Ah, bon. On en est qu'à ce niveau-là, sur les 200 mètres que vous évoquiez tout à l'heure.
Voilà, à chaque 200 mètres, on fera un point. Alors, ça peut varier, on ne va pas rentrer dans les jardins des gens, etc.
Voilà.
Ça ne nous demande pas non plus.
Il faut rassurer aussi les habitants du secteur, oui.
Bah, on va pas leur faire entre le massif d'Hortensia et les pâquerettes, bien sûr. Non, c'est pour avoir une vision statistique, vous comprenez.
D'accord.
Donc il faut que la couverture soit dense, on n'a pas obligé d'être d'une rigueur absolue en termes de mailles carrées. Mais globalement, la densité sera de cet ordre-là, un point tous les 200 mètres, pour être sûr que s'il y a des problèmes dans les sols, ils soient détectés.
Très bien. Plus tard, quand vous serez sur la phase d'exploration plus attentive, donc là, il y aura en plus de ce qui sera fait par hélico, il y aura des carottages cette fois beaucoup plus importants, plus en profondeur, je suppose.
Mais là,
est-ce que vous avez une idée de ce que ça pourra être aussi au niveau de la densité de carottage?
Aucune. Et le problème, c'est celui-là, c'est que densité de carottage, on n'est pas on fait jamais du carottage systématique. Hein, on fait le carottage sur des objets que l'on cherche à identifier ou que l'on cherche à évaluer. Bon. Donc ça, ce sera dépendant des résultats de la géochimie et de la géophysique. C'est-à-dire qu'on sera à mesure, je dirais, de proposer ce genre de sondage, probablement dans une paire d'années, un an et demi, deux ans, quoi. Mais ce serait assez raisonnable dans le temps de faire la géochimie, la géophysique.
Concrètement, qu'est-ce que vous pensez qu'il peut y avoir comme richesse minière à exploiter dans ce sous-sol de notre pays de Haute-Sarthe? L'hypothèse que vous avez émise, c'est quoi?
Pour nous, c'est le cuivre et le zinc. C'est les deux métaux qui vont définir les gisements, si gisements existent, c'est le cuivre et le zinc. Alors avec ces deux métaux principaux, peuvent se trouver toute une série d'autres métaux qui peuvent valoriser le minerai, mais qui ne vont pas le définir.
Dans tous les cas, si jamais il y avait suffisamment, prenons du cuivre par exemple, en quantité suffisamment importante pour que ça mérite une exploitation, c'est prévu pour une exploitation avec des technologies qui n'impactent pas l'environnement, en tout cas du point de vue visuel. Ce serait sur une exploitation en total, en sous-sol en total, c'est ça?
Complètement, oui, parce que si gisement il y a, il n'est pratiquement pas affleurant, ça se serait su, c'est-à-dire, et puis il n'y a pas de raison de faire de l'open pit. Si on prend comme exemple, je dirais, de masse de sulfure, le corps qui est à Rouet, à cet endroit-là, on a quelque chose qui descend jusqu'à 500 mètres de profondeur et qui reste encore ouvert et qui est très très mal connu, en fait, puisque les gens se sont polarisés sur la partie superficielle. Bon. Donc, ça signifie qu'une exploitation de ce genre d'objet nécessite obligatoirement des travaux souterrains et des souterrains profonds. C'est-à-dire que dans ce cas-là, on n'a pas intérêt à remonter de très loin sous la surface les choses, je dirais tout à fait de manière superficielle, pour les traiter et puis les réenfouir après. Il est beaucoup plus simple d'envisager de travailler au fond.
Ce qui veut dire que vous considérez quasiment que si jamais il y avait exploitation dans notre sous-sol, il n'y aurait pas d'impact environnemental, on n'aurait pas en gros une immense poubelle comme on en connaît déjà une sur le territoire.
Voilà, bien sûr. Ça, c'est, je dirais, c'est, et on comprend, nous, toutes les préoccupations, je dirais, que l'on souhaite bien expliquer à ce sujet-là, parce que, bon, ce qui se faisait il y a 30 ans, ça se fait plus. Et surtout que, bon, l'exploitation ancienne n'a... Bon, s'est intéressé, je dirais, au niveau minier qu'à un tout petit objet, même s'il y a une grosse poubelle aujourd'hui.
Alors, pour les auditeurs, on parle de champs de pie, on parle de l'exploitation d'or du début des années 90.
Voilà.
Hein, voilà.
Voilà. Et donc ça, je dirais, ce genre d'open pit avec des traitements que l'on ne ferait pas aujourd'hui de cette manière-là, il n'y a aucune raison qu'il y soit. Alors, mais pour l'instant, comme vous avez pu le constater, nous, on ne va pas travailler sur champs de pie.
Ah voilà, il y a une zone d'exclusion. Donc oui, alors, votre point de vue sur cette question de zone d'exclusion, pour vous, ça crée quelque chose, une contrainte particulière ou
des retards.
C'est plutôt un avantage ou un inconvénient de votre point de vue, on va dire industriel, quoi. Enfin,
d'un point de vue purement économique et industriel, ça crée des retards, donc ça créera des surcoûts. Bon. D'un point de vue, je dirais, sociétal, c'est très bien parce que les gens vont pouvoir découvrir ce qu'est l'exploration minière et ils seront en grande partie rassurés sur la façon dont les travaux sont menés. Parce que bon, finalement, on peut pas en vouloir aux personnes non averties de ce qu'est l'exploration minière, de comment ça se passe. Ça fait plus de 30 ans qu'il n'y en a pas eu en France.
Oui, tout à fait, oui.
Alors les exemples manquent quand même, et on se réfère toujours à un passé qui n'est pas toujours très reluisant. Bon. Donc pour nous c'est l'occasion de montrer justement que les incidences de ces études vont pouvoir aider à connaître la composition des sols, à aider l'agronomie, à vérifier l'état des eaux, etc. etc. Bon, il y a beaucoup de retombées positives sur les ne serait-ce que les premières approches qui vont être faites.
Ok. Alors, ce qu'on peut dire, c'est que de toute façon, on aura l'occasion, donc, dans les années qui viennent, de reparler de tout cela. Quand vous êtes parti sur ce projet, votre hypothèse qu'il soit finalement retenu, c'était quel pourcentage que vous donniez de réussite possible par rapport à ce projet ?
Mais nous, on était confiants, et c'est pour ça que je dirais que on a maintenu... notre action et notre optimisme pratiquement au cours de 3 années, hein. Puisqu'on a démarré l'opération en fait à la fin des années à la fin de 2010. Donc c'est bien qu'on y croyait et qu'on a réussi à faire à faire passer notre message auprès de nos actionnaires qui devaient aussi avoir cette patience là, puisque c'est quand même long comme délai. Alors je sais
oui
bien
mais
que...
c'est normal dans la mesure où on touche quand même à un espace qu'on partage à plusieurs humainement.
Tout à fait, mais la même demande, vous voyez, au Canada ou en Australie, ça prend un quart d'heure.
Oui, mais les zones sont peut-être pas habitées avec la même densité.
C'est-à-dire que il faut voir qu'on a obtenu le droit de travailler, mais les plans de travaux, eux, vont être présentés. C'est-à-dire que dans ces pays-là, en général, ce qui est regardé ensuite avec beaucoup plus de détails, c'est le plan de travail lui-même, c'est pas l'autorisation de lancer le travail. Hein. Alors que nous avons mis beaucoup de temps à demander l'autorisation, bon, mais c'est une spécificité de notre loi, hein. Et ensuite, bon, maintenant, on va devoir aussi présenter les plans de travaux. Hein. Donc, ces délais-là, je dirais, dans le monde minier international, étaient quelque peu regarder avec beaucoup d'inquiétude. Alors l'annonce justement de l'ouverture à l'exploration minière de la France va être très très regardée au niveau international, c'est évident.
Alors justement, on peut peut-être envoyer les auditeurs vers un document que j'ai trouvé tout simplement par un moteur de recherche sur Internet. Vous avez mis sur Internet un PowerPoint en fait, hein, sur une stratégie d'exploration minière en France au 21e siècle, hein, que vous signez, monsieur Bonnemaison. Ce document est accessible et il permet entre autres de comprendre un petit peu ce que sont les technologies que vous utilisez. Vous conseillez aux gens éventuellement d'aller voir ce document ?
Écoutez, personnellement, je ne l'ai pas mis en ligne, donc je ne sais pas trop où il est.
Alors, il s'agit d'un document qui sort de l'école thématique du CNRS, Institut National
d'accord,
des Sciences
oui,
et de l'Univers.
D'accord, c'est ce qui a été présenté à l'école des mines à Paris. Okay.
Voilà.
Bien sûr, oui, moi je dirais, on va rester très transparent sur ces technologies-là, il y en a d'autres. Celle-là, c'est probablement une de celles qui sera regardée en priorité, hein, puisqu'il s'agit justement des unités mobiles souterraines. Alors, et bien évidemment, on ne décide d'une technologie d'exploitation que lorsqu'on a pu cerner un gisement. Pour l'instant, la seule chose qu'on peut savoir, c'est qu'il ne sera pas en surface parce qu'il n'y a rien qui affleure.
Voilà, tout à fait. Donc, de toute façon, on va attendre de voir maintenant ce qui va se passer. Le texte est passé, il y a des commissions qui vont se mettre en place. Il y aura des premières opérations que vous nous annoncez pour l'été.
Enfin, l'été, l'automne. Hein, on va pas mettre les gens au travail peut-être au milieu du mois d'août non plus. Hein.
D'accord. Bon, enfin, en tout cas, on aura l'occasion de reparler de tout ça. Puis quand vous serez sur le terrain, peut-être qu'on aura l'occasion de voir justement ce qui s'est passé de nouveau et ce que vous observez. En tout cas, n'hésitez pas à nous faire part sur notre antenne. Des observations que vous menez au fur et à mesure, parce que c'est vrai que sur des dossiers de ce genre, ce que les habitants souhaitent, c'est surtout être informés, bien comprendre ce que chacun veut faire. Michel Bonnemaison, je vous remercie de votre intervention sur notre antenne, donc en direct ce matin, au lendemain de la publication au Journal officiel de la République française de l'arrêté accordant le permis exclusif de recherche de mines sur ce secteur de Tenny. Merci Michel Bonnemaison.
Je vous en prie. Au revoir.
Dis-moi.
Alors, vous avez donc entendu successivement Maurice Georges et puis Michel Bonnemaison, ce qui permet d'avoir le point de vue de Rouen Environnement et d'autre part le point de vue de la société Variscanmine. Je dois avoir actuellement en ligne, et je l'en remercie d'ailleurs, Françoise Dubois. Est-ce que vous m'entendez, Françoise Dubois ? Alors. Françoise Dubois, est-ce que vous m'entendez ?
Oui.
Voilà. Voilà, merci Françoise Dubois. Donc vous êtes entre deux rendez-vous. Je vous remercie de consacrer quelques instants à notre antenne. Je disais donc que nous venons d'entendre Maurice Georges et Michel Bonnemaison exprimer leur point de vue. Je rappelle que au Journal officiel est paru hier donc cet arrêté signé par Arnaud Montebourg accordant le permis exclusif de recherche avec une zone d'exclusion qui est la zone de Champy. Quel est votre sentiment justement sur l'issue qui a été choisie sur ce dossier par le ministre?
C'est pas vraiment une surprise. Bon, on se doutait que le permis serait accordé parce qu'il y a un enjeu économique derrière cette décision. Donc, effectivement, on n'avait pas beaucoup le choix pour s'opposer vraiment à cette autorisation d'exploration. Ceci dit, on va s'occuper de très près tout ce qui va se passer, de façon à ce que la société Variscan se comporte correctement par rapport aux élus et par rapport aux riverains, bien sûr, qui vont être concernés par l'exploration.
Qu'est-ce que vous ressentez, vous, à travers les rencontres que vous avez avec les populations sur ce territoire, comme écho d'inquiétude et pourquoi pas d'enthousiasme?
Oui, bien sûr. Non, mais bien sûr, la population et les élus étaient inquiets parce qu'ils avaient une mauvaise expérience qui leur restait en tête. Hein. Là, j'espère que ça ne se passera pas de la même façon. De toute façon, moi, si jamais il y a des gros problèmes, j'alerterai en urgence le ministre de façon à ce qu'il intervienne pour que la société se comporte de façon correcte avec tout le monde.
Donc, ce que vous nous dites, c'est que si localement, il y a une forte vigilance qui est assurée par l'association locale, vous assurerez cette vigilance pour en faire part au ministre.
Absolument.
Si jamais il y a des dérapages.
Voilà, c'est le sens du courrier que j'ai fait à tous les maires qui sont concernés, que je vais leur envoyer aujourd'hui d'ailleurs, puisque j'ai appris moi hier soir cette autorisation, et je leur ai bien spécifié dans mon courrier que nous resterons tous ensemble très vigilants par rapport à cette exploration. Et je comprends bien leur inquiétude, hein, c'est ce que j'avais dit à la réunion publique que j'avais faite à Fillette Guillaume.
Oui, ce qui est un moment important, oui.
Qui a été un moment important, et je pense que j'avais bien fait de l'organiser pour rassurer en même temps, mais surtout pour informer, de façon à ce que tout le monde soit autour de la table et que les choses soient claires, hein, qu'il n'y ait pas de rumeurs qui circulent. Variscan a été très honnête, à mon avis, à cette réunion, et donc, voilà. On attend maintenant l'autorisation préfectorale, hein, bien sûr, qui va être donnée par Monsieur le Préfet incessamment, je pense.
C'est de quel ordre de délai?
Je ne sais pas dans quel délai. Ça va suivre. Hein, ça va être très prochainement. Hein, de toute façon, dans les deux semaines qui viennent, à mon avis, il y aura une autorisation qui est préfectorale qui sera donnée.
Donc c'est ce qui permet ce qui autoriserait en quelque sorte Variscan à dès maintenant dire qu'ils vont commencer leur première prospection durant cet été. Alors.
Oh, durant l'été, je ne sais pas s'ils vont commencer tout de suite durant l'été. Ça, ils nous ont pas donné de précision, mais je pense que je vais demander à les rencontrer, moi, maintenant, peut-être en particulier, avant qu'ils commencent leurs travaux, hein, d'exploration.
Parmi les dans les annexes du texte qui est paru, de l'arrêté donc du 17 juin, il est prévu la formation d'une commission. Est-ce que vous serez présente dans cette commission ou est-ce que ce seront les acteurs locaux vraiment du terrain?
La commission, ce sera une commission de suivi qui va se mettre en place. Moi, je demanderai à être présente, effectivement, hein, si je n'y suis pas conviée, je ferai en sorte d'y être conviée.
Alors, est-ce que vous pensez sincèrement qu'il y a derrière un enjeu économique? On se souvient de titres sur nos amis de la presse locale qui faisaient apparaître un jour des grosses promesses en termes de création d'emplois. Vous y croyez intimement?
Oh, je l'espère.
Vous l'espérez, oui.
Je peux pas vous donner, oui, mais c'est vrai, il y a des enjeux économiques. Après, il faut voir en fonction des résultats de l'exploration si vraiment ça pourra s'appliquer. Mais bon, s'il y a effectivement des emplois qui sont proposés, je pense que pour le territoire, ça peut être une bonne chose.
Mais dans tous les cas, ce n'est pas pour les quelques semaines ou mois qui viennent. C'est en termes d'années que ces emplois se chiffreraient, puisque ce serait plutôt sur de l'exploitation et ce n'est pas pour tout de suite.
Je ne sais pas s'ils auront besoin d'emplois pour l'exploration. Hein. Je ne leur ai pas posé la question. C'est possible aussi, mais le plus gros des emplois, je pense, sera pour l'exploitation, oui. Certainement.
Donc vous êtes plutôt satisfaite de cette décision globalement alors?
Réservée. Pas satisfaite forcément, mais réservée parce que moi je tiens absolument à ce qu'on ait des garanties. Voilà, pour que tous ces travaux se passent bien. Donc voilà, ils seront sous haute surveillance. Je l'avais dit à la société Variscan et bon, ils avaient l'air d'être sincères et d'accepter qu'on les surveille de près. Ils ont très bien compris quelles étaient nos préoccupations, hein, de toute façon.
Très bien. On vous remercie, voilà. Françoise Dubois, d'avoir consacré quelques minutes pour réagir sur cette information très importante pour notre territoire, là, sur cette partie de Haute-Sarthe. On vous souhaite une bonne journée et on vous réentendra sûrement sur ce dossier ou sur d'autres prochainement. Merci, Françoise Dubois.
Je le suis de très près, de toute façon. Hein. On est encore sur le code minier, donc sur la réforme, et je suivrai le dossier de très près.
Voilà, c'était donc Françoise Dubois, députée de la Sarthe, députée de notre circonscription, qui était avec nous pour donner son sentiment sur cette décision. Pour terminer cet instant de journal, juste rappeler deux rendez-vous importants pour ce week-end. Dimanche, Bourg-le-Roi, allez à Bourg-le-Roi, il y aura cette fameuse fête médiévale. Les bénévoles qui organisent cette fête depuis très longtemps ont un savoir-faire qui est tout à fait étonnant. Et ce sera donc l'occasion de voir de nombreux exposants, de nombreuses animations, un moment tout à fait fabuleux au pied de la motte féodale de Bourg-le-Roi. Ça vaut le coup d'y aller. Mais, allez aussi, bien évidemment, à Kikloche, vous savez, ce festival sur les petites formes spectaculaires, et vous y retrouverez l'équipe évidemment de Fréquence Sillée, puisque nous y serons pour, comme d'habitude, rencontrer l'ensemble des artistes que nos amis de Festival en Haute-Sarthe et de Créatures auront fait venir ici sur la Sarthe. Donc vous aurez l'occasion de nous rencontrer aussi là-bas et d'avoir des échos donc de cette belle manifestation qui cloche, qui se tient à Vivoin. Ce sera dimanche avec un spectacle le samedi soir comme d'habitude. Vous retrouverez dans ce même journal lundi Manu, donc fidèle au poste, et je remercie pour sa collaboration technique qui a été très précieuse dans cette matinée, Malika Bousla, qui nous a permis de faire cette page spéciale consacrée à cet arrêté. Donc je vous le redis, je vous le rappelle, le permis exclusif de recherche de mine sur le secteur de Tény a été accordé, c'est paru au Journal officiel maintenant. Cette session d'information est maintenant terminée, je vous remercie de votre attention. Au revoir.